Voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Attentat du 13 novembre. 20 suspects renvoyés devant les assises spéciales après un travail colossal qui décrypte itinéraire, organisation et responsabilité des terroristes. Le parquet a rendu son réquisitoire. France Inter a pu le consulter en exclusivité. Charles Michel, le très Macron-compatible nouveau président du Conseil européen, son portrait dans le journal. Dans ce journal encore, le Black Friday qui donne le coup d'envoi du boom consumériste de Noël et la course la plus dure au monde, l'Ultra Trail, exporté à Oman et remporté par un Français.
Les invités de la matinale, Patricia Martin, à partir de 7h50, vous recevrez...
L'historien Bruno Kaman pour Un siècle de réfugiés, c'est un livre qui vient de sortir au Seuil.
Et à partir de 8h20, notre invité Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes.
France Inter.
Après les attentats en France du 13 novembre 2015, on s'oriente vers un procès en 2021.
La perspective se précise en effet. Le parquet national antiterroriste a rendu ses réquisitions définitives. Il demande le renvoi aux assises de 20 personnes, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos. Après 4 ans de travail titanesque, Charlotte Piret, vous avez pu consulter en exclusivité ce document très détaillé de 560 pages.
C'est un travail colossal. La synthèse de près d'1 million de pages, de 4 ans d'enquête pour décortiquer le fonctionnement, l'organisation et les responsabilités de la cellule terroriste à l'origine de ces attentats. Une cellule reposant sur 2 piliers, analyse le parquet national antiterroriste. Un groupe parti en Syrie où il a bénéficié de formations religieuses et paramilitaires intensives. Et un autre resté en Belgique mais adhérent pour la majorité aux thèses mortifères de l'État islamique selon les termes de ce réquisitoire. Maître Frédéric Giffard est avocate de partie civile. Elle s'est lu une analyse en profondeur.
Il y a plusieurs niveaux d'implication. Il y a des gens qui sont un peu impliqués jusqu'à Salah Abdeslam. Et effectivement, le travail a été minutieusement mené pendant l'instruction et c'est très important qu'on aille aussi loin qu'on puisse aller pour établir des responsabilités de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ces attentats.
Pour Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre, le parquet, qui le considère comme totalement acquis au test de l'État islamique et co-auteur de l'ensemble des crimes, requiert un renvoi pour meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, notamment une infraction pour laquelle il encourrait devant une cour d'assises la réclusion à perpétuité.
Retrouvez sur franceinter.fr le décryptage du réquisitoire et ne manquez pas toujours sur franceinter.fr, le podcast de Sarah Guibaudot sur cette tentaculaire enquête. À Londres, l'assaillant au couteau du London Bridge avait été condamné pour terrorisme islamiste. C'était en 2012 et il était en liberté conditionnelle depuis moins d'un an. Ousmane Khan, 28 ans, a tué 2 personnes, en a blessé 3 en plein cœur de la capitale britannique. Des passants ont tenté de le maîtriser, mais l'homme qui semblait porter une ceinture d'explosifs a été abattu par la police. Sa ceinture s'est révélé factice. Il aurait agi seul. Aucune autre personne ne serait recherchée. Cette attaque n'a pas été revendiquée, contrairement à celle qui, en 2017, sur ce même pont, avait fait 8 morts. Le groupe État islamique l'avait revendiquée.
Passation de pouvoir hier à la tête du Conseil européen.
L'instance qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27, eh bien c'est Charles Michel qui remplace Donald Tusk. L'ancien Premier ministre belge semble avoir les qualités diplomatiques nécessaires pour un poste qui est chargé surtout de mettre de l'huile dans les rouages souvent grippés entre les dirigeants européens. Et pendant cette période délicate du Brexit, la France, en tous les cas Angélique Bouin, se réjouit du choix.
Sera-t-il l'homme d'Emmanuel Macron? En termes d'influence française auprès du Conseil, il n'y a pas photo. On ne regrettera pas Donald Tusk, souffle une source européenne. L'ex-premier ministre belge, qui a siégé à ce titre dans le cénacle des dirigeants, affichait en marge des conseils une évidente complicité, y compris politique, avec le président français. Mais c'est aussi un proche des premiers ministres luxembourgeois et néerlandais, Xavier Bettel et Mark Rutte, tous deux centristes, libéraux et de la même génération qu'Emmanuel Macron. Ministre à 25 ans, Premier ministre à 38 dans un pays, la Belgique, où rien n'avance sans compromis, cet ancien timide de 43 ans, peu flamboyant, disent ses détracteurs, est en revanche souvent salué pour ses talents de conciliateur. Une qualité essentielle pour surmonter les blocages entre les 27. Avec la multiplication des domaines dans lesquels l'Union légifère, désormais le Conseil a pris du poids. Charles Michel était plutôt favorable dans le passé à une Europe à plusieurs vitesses, celle qui autorise l'avancée de certains dossiers sans attendre l'unanimité. Son objectif numéro numéro un sera désormais de faire monter tout le monde à bord. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Contre le réchauffement climatique, des milliers de jeunes dans le monde ont manifesté hier. Une mobilisation qui a fusionné avec les anti-Black Friday, opposés à l'hyperconsommation. Pour certains, au contraire, c'est la carte bleue qui chauffe. 6 milliards d'euros dépensés en 4 jours en France depuis le lancement lundi de cette semaine de soldes. 1,7 milliard rien que pour les achats sur Internet. Après les commandes, c'est l'envoi des colis. Et là aussi, ça chauffe dans les centres de tri. Reportage à la plateforme d'Audincourt dans le pays de Montbéliard, Nolwenn Kyo.
Des colis qui s'entassent par milliers et autour, plus d'une centaine de facteurs qui vont et qui viennent. Un premier tri, ils scannent les paquets, les rangent par zone, ils s'occupent de mettre en ordre leur propre tournée. Sur de grands chariots, Laetitia gère la tournée demandeur.
Sur chaque rangée, il y a les noms des rues. Après, on va charger notre voiture. Je vais prendre le dernier chariot, donc c'est la fin de ma tournée, pour la mettre au fond de mon camion. Tout est classé.
Benoît, lui, a déjà rangé sa fourgonnette. Il s'apprête à partir pour Héricourt.
Ouais, j'ai quand même une centaine de colis aujourd'hui là. Ouais, c'est une bonne journée. Ouais. Normalement, je dois être à 80, je crois, donc ça fait un petit peu plus quoi.
Car en ce moment, à Audincourt, on reçoit 4700 colis par jour, deux fois plus que d'habitude. Achraf Elboya est le responsable d'exploitation.
Ça commence, on va dire, entre le 18 et le 25 novembre jusqu'au jour de Noël quoi. Après Noël, on a encore la période du blanc qui commence début janvier quoi.
Face à cet afflux, 17 CDD ont été recrutés. Il a aussi fallu louer des camionnettes en plus. Et Benoît et Laetitia, nos facteurs s'adaptent.
C'est intense. Il y a beaucoup de boulot, il faut y aller quoi.
Bon, il y a un peu plus de pression, on va dire, entre gros guillemets. Mais bon, on a les renforts qui sont là pour nous aider et tout va bien.
Vers 9h, le calme revient à Audincourt avant le retour des tournées et des colis non distribués.
La chaleur, encore, on termine dans la sueur de l'Ultra Trail, l'une des courses à pied les plus dures au monde, qui séduit tellement qu'elle s'exporte du Mont Blanc jusqu'à Oman ou dans la Rocaille. C'est un Français, Romain Olivier, qui s'est imposé. Reportage à Oman de Jérôme Val.
C'était quand même assez dur. Doux euphémisme quand on voit le visage marqué de Romain Olivier.
On attaque l'hiver, on vient de prendre 1 mètre de neige il y a une semaine et là on se retrouve là, il fait 30 degrés. Bon, voilà, c'est sûr. Ça fait un peu bizarre. Malgré tout, ça reste très difficile technique quand même, comme parcours. Hein.
130 km à batailler dans les rochers, sur les cailloux à flanc de montagne où l'ombre est inexistante ou dans les canyons asséchés où la chaleur se transforme très vite en fournaise.
C'est de la caillasse du début à la fin. Voilà, il n'y a pas de répit, il y a quelques bouts de piste, quelques bouts de route. Il faut vraiment l'épuiser quand même.
Romain Olivier, guide de haute montagne à Briançon dans les Hautes-Alpes, a bouclé le circuit en 18h et 18 minutes à la vitesse moyenne de 7 km/h. Son poursuivant est arrivé 2 heures plus tard. Le Savoyard Julien Chaurier, coureur de l'extrême qui accumule entre 3000 et 4000 km chaque année, heureux d'en finir.
Ça va beaucoup mieux là, je suis bien content d'être assis et d'être à l'ombre. C'était vraiment dur parce que le profil est difficile, le climat est difficile et surtout le chemin est toujours très difficile. Je pense que c'est un des plus durs dans le sens où justement on est en permanence en prise et on n'a pas de moment où on peut relâcher.
Mais l'Ultra Trail d'Oman, ce n'est pas seulement de la sueur et des douleurs, c'est aussi un spectacle. Pour les yeux, c'est la première fois qu'Astrid René, qui vient de Chamonix, courait sur 50 km.
Le paysage est tellement beau qu'on a juste à regarder autour et puis on retrouve de l'énergie. À la fin, là, on traverse une palmeraie, il y a une énergie de dingue, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un super pays. Les gens, ils sont fabuleux, super gentils, au ravitaillement, enfin vraiment... excellent.
L'épreuve omanaise a tenu toutes ses promesses et même au-delà si l'on en croit l'un des rares coureurs professionnels français, Sébastien Chéniaud, au bord de l'épuisement à l'arrivée.
C'est très dur, hein. Très très dur. Là, il faut avoir une certaine expérience dans le milieu. Hein. On ne peut pas lancer n'importe qui là-dessus, hein. C'est trop trop compliqué.
Le ton est donné, Oman ne s'offre pas facilement.
Et pour l'Ultra Trail du Mont Blanc qui aura lieu en août, les inscriptions, c'est bientôt, Patricia, je vous le signale, c'est à partir du 17 décembre.
Allez, on va s'entraîner. Oui, c'est ça. C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, les éclaircies pour l'Est, les pluies pour l'Ouest.
Ah, tout à fait. Alors les brouillards seront suivis d'éclaircies sur les régions les plus à l'est, tandis que près de l'océan, là, le temps va tourner à la pluie en matinée. Puis en journée, il faudra également sortir le parapluie de la Normandie au Midi-Pyrénées, avec à l'avant des nuages quand même de plus en plus envahissants en fin de journée, du nord de la Seine au massif central. Dans une ambiance fraîche cet après-midi, du nord de la Seine à la frontière allemande, avec une moyenne de 7 degrés. Il en fera 10 de plus sur la Côte d'Azur, le Pays Basque et la Corse, en passant par 11 à Bourges et à Lyon, 12 à Brest ainsi qu'à Cognac et 14 à 16 près de la Garonne et de la Méditerranée.